Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcadji.
Chaque jour, vous, nous, vivons la crise. Non pas, telle l'entrée dans l'hiver, dans une mauvaise saison qui passera et contre laquelle les petits malins que nous sommes se mettront à l'abri, car nous sommes, nous le constatons, nous le vivons, de moins en moins nombreux à pouvoir resquiller. Une situation inédite, notre modèle de croissance exponentielle sur une planète qui n'est pas extensible est arrivé à son point de non-retour. Juste avant Rio plus 20, des figures têtues de l'écologie, parmi lesquelles Sir Brundtland, l'auteur dès 1987 de Notre futur commun, la pierre angulaire de la pensée politique d'un développement véritablement durable, ont remis au secrétaire général de l'ONU leur nouveau rapport. Ce rapport s'intitule « Resilient People, Resilient Planet ». De fait, ce rapport estime à pas plus de 5 à 10 ans le laps de temps possible pour prendre de véritables décisions, c'est-à-dire des décisions qui ne se dispensent plus de faire comme si le réchauffement climatique n'existait pas. Quel État budgétise en effet aujourd'hui le principe de précaution ? Les réfugiés climatiques, les conséquences des sécheresses à venir, sont aujourd'hui gérées par la ligne budgétaire catastrophe naturelle, c'est-à-dire après coup. L'adaptation, le fait de penser notre monde avec ces deux nouvelles donnes majeures, climatiques et démographiques, c'est ce que demande le rapport « Resilient People, Resilient Planet ». C'est dans le droit fil de ce rapport, qui est en téléchargement libre sur le site de l'ONU, que s'est tenue la 7e Global Conférence, forum international pour un développement durable organisé chaque année par les Ateliers de la Terre. Cette Global Conférence a réuni en un même lieu les pontes de la prospective, les acteurs majeurs du développement durable et des petites mains de la société civile que nous sommes, de plus en plus nombreuses à prendre des initiatives, si minimes soient-elles, mais qui se veulent dans le sens de la quadrature du cercle. Bettina Laville, présidente du comité d'orientation des ateliers de la Terre.
Je pense que ce qui a été intéressant, si vous voulez, c'est que, par exemple, moi j'étais contente que Pachuri reprenne le thème de l'adaptation, qui figurait dans le rapport qu'on a produit ici. C'est effectivement, à mon avis, la chose la plus importante. Il n'y a pas d'adaptation, sans, non seulement co-construction, mais sans esprit, pour co-construire quelque chose qui tient à la fois de l'aléatoire, parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer, et en même temps du certain, parce qu'on sait qu'on doit s'y adapter. Je pense que finalement, ce mot co-construction, qui est synonyme de beaucoup d'autres mots, il y a même des gens qui appellent ça l'harmonie parfois, montre bien la diversité de ce qu'on a à faire, à produire, la difficulté aussi. Et je pense que l'élan, moi ce qui m'a vraiment frappé dans cette édition, c'est l'élan des gens pour s'y mettre.
Co-construction ou bien triomphe de la compétition, tel était le sujet de ce formidable think tank. Triomphe de la compétition, nous vivons une pression démographique dans un contexte de rareté des ressources. La sortie, entre guillemets, de ce goulot d'étranglement par la barbarie n'est pas exclue. On le voit bien, la scène internationale ne parvient qu'à se mettre d'accord pour remettre les décisions au calendre grec avec quelques toilettages à la marge, pendant que la société civile s'emploie à inventer et s'est véritablement la nouvelle donne, tel un bouillonnement, à certains égards dans tous les sens et non sans de cruels reculs parfois, la co-construction, le fait d'agir ensemble, le fait d'agir ensemble avec les autres et compte tenu du fait que tout dans la nature est en interaction avec tout. Pierre Rosanvallon appelle cette nouvelle donne l'irruption des publics. Exemple, parmi tant d'autres, l'huile de palme. Ce sont les réseaux sociaux, formidables caisses de résonance et non pas les réglementations qui ont conduit les entreprises à modifier leurs process. Et les exemples de l'impact de ce positionnement nouveau des opinions publiques sont multiples. S'informer, s'interconnecter, s'exprimer, exercer une pression est devenu une attitude intellectuellement légitime. Elle a en particulier investi le champ du politique, dispose du monde au bout de ses doigts. Ce bouillonnement, la tchatche mondiale, est véritablement une nouvelle donne. Elle pose d'elle-même des dérivations là où elle estime que le système bloque. Seule exception à ce jour à la règle, ainsi que l'a pointé Leonardo Bonanni, fondateur de SourceMap, lors du focus consacré à Internet et les réseaux sociaux, vecteurs de consommation responsable, les entreprises n'ont pas de réseaux sociaux. locales pour savoir qui sont les fournisseurs de leurs propres fournisseurs. Et de donner en exemple deux brasseurs de bière en Écosse. Ils envoyaient chacun de leur côté leur bière au Royaume-Uni pour sa mise en bouteille. Internet a joué son rôle de tam-tam. Nos brasseurs écossais ont désormais conçu d'avoir une entreprise de mise en bouteille sur place. Le local qui ne se prive pas de faire savoir qu'il existe, et ce d'un bout à l'autre de la planète, a bouleversé la hiérarchie, a commencé par sa propre place. Le local n'est plus la base version bas étage, il est au contraire envisagé comme une opportunité, le point d'ancrage à partir duquel il est possible de faire bouger les lignes. Gilles Boeuf, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui animait justement le focus, acteurs locaux et mise en valeur de la biodiversité.
Moi, je suis très confiant dans la capacité de la base à s'organiser localement au départ. Bon, le problème, c'est de trouver cette transition entre cette base qu'on évoque locale et puis quelque chose de plus ambitieux au niveau international. Moi, je pense que ça va fourmiller pendant un certain temps et ça va, comme une soupe qui va bouillir, puis à un moment, ça va sortir. Mais je pense que ça va être lié à quelques hommes qui sont capables, hommes ou femmes, bien entendu, hein, capables de faire ça. Je pense qu'il faut des gens aussi emblématiques dans la société civile que parmi les hommes politiques. Et c'est pas forcément les grandes ONG environnementales, hein. Je pense qu'il faut que ça vienne beaucoup plus de la base. Peut-être qu'au niveau éducatif, hein, si on arrive à bien faire passer le message de l'école maternelle à la terminale, on va avoir des gens qui vont sortir. Il faut qu'on aille assez vite, on n'a plus tellement de temps. Hein. Et je pense que l'homme politique, de toute façon, il ne va pas rester en arrière. Hein. Il va se rendre compte un jour que s'il ne relaie pas ça, il a peu de chances d'être réélu. Donc je pense que c'est ça un petit peu qui va les pousser à faire quelque chose. Mais je pense vraiment pas que c'est eux qui vont prendre l'initiative aujourd'hui.
La science, la voici désormais rituellement invitée dans les grandes agoras qui pensent l'avenir du monde. Si le réchauffement climatique n'a pas été pris à sa juste mesure, ce n'est du reste, en l'occurrence, pas la faute du politique, mais des médias soi-même.
Ça me rappelle, il y a quelques temps en France, au niveau de l'Élysée, quand on invitait les spécialistes d'environnement, on en est toujours les mêmes. Hein. Et les scientifiques du climat ont été mieux capables de se faire écouter, et c'est mal vulgarisé par des gens qui ne sont pas spécialistes. Sur la biodiversité, on a encore du problème. Pourquoi est-ce qu'on fonde une couche supplémentaire, en fait, nous, pour communiquer ? Or, qu'on sait bien communiquer, finalement, sur ces questions-là. Moi, je pense qu'il y a un progrès à faire.
Du côté du politique, en tous les cas, les vieux réflexes ont la vie dure. Exemple cuisant, la conférence environnementale, première du genre, qui était censée acter l'existence d'un socle écologique à partir duquel prendre les bonnes décisions.
Bon, elle a eu le mérite d'exister. Mon seul petit reproche, c'est que je trouve que tout ce qui en est sorti était déjà écrit à l'avance. Et je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'intégration des données des débats, de la tenue des débats dans le document final. Moi, j'aimerais qu'on rende public, en fait, les documents qui ont été établis au niveau des 5 tables rondes. Ça serait quand même pas mal. Bon, c'était éreintant pour le facilitateur. C'était un travail très, très, très physiquement, très dur. Bon, assez passionnant, hein. C'est un bon morceau, en fait, d'humain. Et je trouve, bon, alors, la question très claire, pour moi, scientifique, les scientifiques n'ont pas eu leur part, hein. Sur 300 personnes, il y avait 4 scientifiques qui étaient là pour des raisons complètement en dehors du fait qu'ils étaient scientifiques, hein. C'était un expert pour une ONG. Moi, je sais pas, j'en invité chez Boeuf, ça faisait sympa, hein, mais j'étais pas là en tant que scientifique, ni présent du muséum. Donc, je pense que ça me paraît difficile de parler de ces questions-là, en oubliant que les scientifiques ont été les gens qui ont mis sur le débat, sur la table, ces questions-là. Un changement climatique, on le perçoit de façon floue. Heureusement, les scientifiques s'en sont emparés. La perte de biodiversité, c'est pareil. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a eu un rôle important. C'est pas d'alarmiste, je suis pas du tout pour ça. Mais dans le débat global, je pense que, encore une fois, je dis souvent ça, hein, on n'a pas envie de prendre le pouvoir, nous, les scientifiques. Mais il faut nous écouter un peu plus souvent, quand même. Et donc, je trouvais dommage qu'ils soient absents de telles réunions.
Autre étrangeté et non des moindres, la place concédée à l'océan dans la réflexion collective.
Moi j'en parle tout le temps de l'océan évidemment, parce que je l'aime bien. Puis même je suis un marin. Mais bon, on en a encore un petit peu parlé ce matin. D'ailleurs moi j'avoue que je suis toujours gêné quand on sépare l'océan du reste. Ce qui est grave, c'est dans une discussion environnementale et sur les médias de ne pas parler de l'océan. Maintenant, où est la frontière entre les deux ? Hein, récemment j'ai vu qu'on créait des postes de conseillers environnementaux, on va pas les créer en mer et sur terre, hein, sinon on mettra où les mangroves et les estuaires. Donc je pense qu'il est grand temps d'intégrer le marin partout. Et sûr, ne pas l'oublier. Maintenant, on doit faire toujours une situation à part. Par exemple, je vois dans les conférences environnementales, récemment, il y a toujours un atelier mer. C'est un peu dommage. J'aurais préféré que la mer se retrouve en fait à différents niveaux. Maintenant, si c'est la seule façon pour sauver la mer, oui, ok. Hein. C'est comme la position des femmes. Hein. Hein, on fait de la parité parce que si on ne la fait pas, il n'y a rien. Alors c'est mieux que rien du tout, mais j'espère qu'à terme, on va beaucoup mieux intégrer ça. La position des femmes et l'océan.
L'océan dans la réflexion collective, particulièrement en France, a encore la même que celle qu'elle a dans notre inconscient. C'est entre les mois de juillet et août, une fois qu'on en a fini des affaires sérieuses. Il a eu, reconnaissons-le, une belle place dans cette 7e globale conférence. Le grand photographe de l'Arctique, Sébastien Copland, a en particulier fustigé, preuves à l'appui, les décisions abjectes de gouvernement que nous cautionnons. Et l'architecte mérien Jacques Rougerie a martelé que l'avenir de l'humanité se trouve trouve dans l'océan, propos qui, reconnaissons-le, nous paraissent futuristes, tant nous sommes habitués à vivre sur Terre et à réfléchir à partir de ce que nous connaissons. Or, l'océan qui nous fournit l'essentiel de l'oxygène que nous respirons, ses ressources halieutiques et déjà 40% de nos principaux traitements contre les maladies graves, est une inconnue pas facile à intégrer dans notre nouvelle façon de penser. Il était quant à lui très très attendu. L'économiste américain Jeremy Rifkins était présent à cette 7e Global Conference. Le diagnostic que fait Jeremy Rifkins de notre modèle économique est sans appel. C'est un système mort, pelleté dans tous les recoins, une planète exsangue et d'autant échauffée pour en tirer encore du profit. Ce n'est pas la peine de se raconter d'histoire, c'est fini. En revanche, et l'histoire du progrès de l'humanité l'a prouvé, à chaque fois, le lien entre énergie et communication a toujours signé l'entrée dans une nouvelle ère industrielle. Ainsi, au 19e siècle, la vapeur et l'imprimerie, et au 20e siècle, le moteur à explosion et la télétransmission. Nous voici donc, nous dit Jeremy Rifkins, à l'aube de la 3e révolution industrielle, dont les prémices se font déjà jour grâce à Internet, bien sûr. Imaginez qu'Internet fasse non seulement circuler l'information, mais aussi l'énergie. Le scénario peut sembler relever de la science-fiction, mais l'expérience se déroule déjà en Allemagne sur un échantillon d'un million de bâtiments. L'énergie captée par les bâtiments est stockée grâce à de l'hydrogène et mise en réseau en open data grâce à Internet, chacun s'acquittant ensuite de sa consommation personnelle. Ce réseau génial, affranchi de la perfusion du pétrole, permettrait aux régions en panne d'infrastructures électriques d'enfin en bénéficier, contribuerait, nous dit Jeremy Rifkins, au ralentissement du réchauffement climatique. Jeremy Rifkins qui a pensé à tout, des savoirs même de pointe pourraient être téléchargés pour être dupliqués par leurs utilisateurs adéquats. Quant aux 4 plus grosses entreprises au monde, dont 3 sont des entreprises pétrolières, elles ne mettraient plus du tout la clé sous leur paillasson de plastique. Bien au contraire, la mise en cohérence du réseau devrait leur donner matière à maintenir un compte d'exploitation très honorable. Le modèle est diaboliquement séduisant, non pas seulement parce qu'il nous dit qu'il y a une solution, ce qui est tout de même rassurant, mais aussi parce qu'il est plausible, il la modélise, quasiment clé en main, à un détail près et de taille, et pour cause, ce formidable logiciel de notre futur, qu'est la 3e révolution industrielle, et c'est Jeremy Rifkins qui nous le dit, implique de bien s'en servir. Quid, par exemple, de notre façon très ancrée de penser les choses en termes de propriété et selon un schéma patriarcal. Nos petits neurones vont devoir sérieusement s'adapter. Car la nouvelle donne, c'est un Occident qui prône l'humanisme mais qui, confère Rio plus 20, n'a plus tout à fait la main pour le faire valoir, même s'il en finance une bonne part. Ce sont les BRICS, l'anagramme pour le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, qui recensent 40% de la population mondiale, qui assureront plus de la moitié de la croissance du monde d'ici à 2015, selon le FMI, et qui sont aussi les plus vulnérables au changement climatique. C'est le continent africain, un quart de l'humanité en 2040, l'Afrique qui fait partie de l'histoire réelle de l'humanité, même si elle n'a pas encore fait partie de l'histoire officielle de celle-ci, selon l'expression de Jean-Pierre Thébault, notre ministre délégué à l'environnement. Le bouillonnement, ainsi Bettina Laville faisait-elle allusion à la société civile à travers le monde, ne fera pas spontanément une bonne soupe. Le monde n'a jamais été autant interconnecté, mais divisé, rappelait Jérôme Bindé du Club de Rome, un paradoxe intégral à haut risque, faute de dirigeants qui dirigent.
Well, the same message that I had in Rio, that we want leaders to lead and we want change and we want it now.
C'est exactement la même chose qu'à Rio. On veut des leaders qui prennent les devants, enfin des leaders qui mènent et qui prennent les actions qui sont nécessaires et qui les prennent maintenant.
C'est l'appel lancé par Brittany Trilford, 18 ans, activiste pour l'environnement en Nouvelle-Zélande, un petit air de Severn il y a 20 ans. Brittany Trilford n'était alors pas encore née. Brittany Trilford avec la gracieuse traduction de Florent Barche.
I could have given Severn Suzuki's speech at Rio Plus 20 and it would have been the same. However, now we don't have 20 years to wait. We have like 2. You know, we don't have any time to mess around.
Le sens de l'urgence est tout aussi présent qu'il était à Rio il y a 20 ans. La différence, c'est qu'il y a 20 ans, c'était certes urgent, mais on avait quand même un peu de temps pour réagir, sauf que maintenant, on a 2 ans, on a très très peu de temps pour réagir. Et ce qui est flagrant, et ce qu'elle a remarqué, c'est que le discours qu'elle a pu faire à Rio sur les questions de développement durable, elle aurait pu reprendre exactement le même discours que Seven Suzuki il y a 20 ans, puisque finalement les enjeux n'ont pas changé.
Lors de ces ateliers de la Terre, le choc émotionnel de ce qu'est vraiment l'avatar de notre modèle dévastateur a été provoqué par la projection de Super Trash, l'expérience vécue jusqu'au bout par Martin Esposito. Le réalisateur a décidé de vivre pendant 2 ans dans la décharge voisine du lieu de son enfance à Villeneuve-Loubet, en région PACA. Pour situer Villeneuve-Loubet, c'est entre Cagnes-sur-Mer et Antibes, une côte déjà flanquée de la Marina Baie des Anges et du fameux parc de Marineland, respectivement les cages à êtres humains de luxe et les bassines pour nous montrer, dit-on, la faune sauvage. Mais la cerise sur le gâteau se trouve dans l'arrière-pays dont chacun sait qu'il est si beau. Martin Esposito.
Yann Arthus Bertrand a fait Home, c'est un peu vu du ciel. Al Gore parle du réchauffement climatique. Moi, j'ai voulu en fait me rapprocher du déchet, mettre un petit peu notre merde, excusez-moi l'expression, mais en pleine figure. On a besoin, je crois, de comprendre ce qui se passe vraiment et faut arrêter de se voiler la face quoi.
Super Trash en salle à partir du mois de mars prochain, à ne pas manquer. Sans le sac de pop-corn, vous pourriez le regretter. Le reproche que l'on peut en effet faire à la société de consommation est d'avoir imprimé sa marque sur notre façon de penser, consommer le monde tel un vulgaire sandwich sous cellophane, et ce, souvent, aux dépens de la vie d'autrui. Or, ce qui, un temps, a été le reste du monde, pèse aujourd'hui les 3/4 de l'humanité. L'élan est là, le bouillonnement avec ses contradictions. La preuve par le Canada. Stéphane Dion, candidat malheureux aux dernières élections au Canada, avait prévu dans son programme une certaine taxe carbone. Nécessité ne fait pas toujours loi, rappelait l'ancien ministre de l'Environnement d'un pays dont on dit qu'ils sont nos cousins. À plusieurs reprises lors de cette 7e Global Conférence a été pointé le fait que le vocable de développement durable en quelque sorte percutait moins. Et de fait, le développement durable ne peut plus se contenter d'être une série de mesures certes louables. Le développement durable est bien synonyme de la paix que l'on veut ou non dans le monde. Combien coûte la paix et quel prix est-on prêt à lui concéder? La paix, combien de divisions, comme disait l'autre? L'élan est là, les modélisations existent, mais qui ne feront pas faire l'économie de décisions courageuses, ce qu'est vraiment la transition.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.